Bonjour Bérénice.
Bonjour Sophie et bonjour aux auditeurs qui nous rejoignent pour cette nouvelle chronique du CNV.
Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble le thème du conflit conjugal.
Si nous faisions un sondage avec la question « Aimez-vous les conflits ?», j'imagine qu'une très grande majorité d'entre nous répondrait non. Parmi les couples que je reçois au cabinet le CNV, beaucoup viennent en disant « Nous n'arrêtons pas de nous disputer et si cela continue, nous allons nous séparer ». Cela s'explique sans doute par le fait qu'aujourd'hui, ce qui justifie d'être en couple, c'est le sentiment d'amour qui unit deux personnes et les désaccords conjugaux sembleraient aller à l'encontre de ce sentiment. Et pourtant, le conflit, surtout au niveau conjugal, est inévitable. C'est une opposition chargée d'émotions désagréables telles colère, tristesse, agressivité, frustration, jalousie, et qui peuvent entraîner rancune, dégoût, critique, insulte, violence, isolement, avec parfois aussi des conséquences psychiques, physiques. Mais j'ajouterais que le conflit peut être une forme de communication avec une possibilité de faire grandir la relation.
Quand les conflits se déclenchent-ils ?
Les conflits commencent à se déclencher à la fin de la période de lune de miel, quand nous pensons que l'autre nous est acquis. Dans les premiers temps de la rencontre amoureuse, nous vivons dans la facilité d'aimer, alors qu'aimer véritablement est exigeant, demande de la volonté. L'idée est d'accueillir l'autre tel qu'il est et non tel que je voudrais qu'il soit. Donc de l'accueillir avec ses qualités, mais aussi ses fragilités, ses défauts, ou en tout cas ce que je perçois comme tel. Le début de la relation semble magique et facile. C'est une période très agréable, mais qui ne va pas durer éternellement. Un couple, ce sont deux personnes, avec chacune une histoire familiale et personnelle. Des blessures, des besoins, des attentes, des exigences, des valeurs qui ne coïncident pas systématiquement avec celles du partenaire. C'est à la fois une vraie richesse parce que cela peut permettre à chacun des conjoints d'avoir une nouvelle vision des sujets, des préoccupations, des manières de faire. Et puis bien sûr, ces différences peuvent être aussi source de conflits.
Quelles sont les principales causes de disputes ?
Alors, sans faire de hiérarchie, on pourrait trouver six grands thèmes. L'argent, l'éducation des enfants, les relations avec la famille belle famille, la répartition des tâches ménagères, la sexualité et l'équilibre vie pro-vie perso avec le choix des loisirs. En fait, nos disputes viennent nous parler de nos manques qui peuvent parfois remonter à l'enfance. Ce qui m'a manqué petit peut me manquer encore. D'où l'importance, dans certains cas, de mettre en lumière ces manques, ces blessures d'amour, qui sont les plus profondes, avec parfois l'aide d'un professionnel, afin de venir nous apaiser et d'empêcher la réactivation régulière et désagréable à travers notamment des querelles conjugales. Il y a aussi des manques liés à nos besoins d'adultes, dont le principal est d'aimer et d'être aimé, mais aussi le besoin de reconnaissance, d'être compris, d'appartenance, des besoins intellectuels, spirituels, physiques. Nos désaccords viennent souvent de besoins non satisfaits et frustration oblige, ils ne seront jamais tous satisfaits. Et en plus, notre conjoint n'est pas là pour répondre à toutes nos demandes, souhaits, exigences. Il ne pourra jamais nous combler et la réciproque est également vraie. Il nous faut déjà connaître nos propres manques et ainsi une dispute, si nous prenons le temps de réfléchir à ce qui s'y est joué, peut venir nous éclairer justement sur ces besoins non satisfaits. Il y a également des incompréhensions liées à une mauvaise communication.
Est-ce que tous les couples se disputent de la même manière ?
Et non, Sophie, nous sommes tous uniques et donc tous les couples le sont aussi. Notre tempérament va influencer sur notre manière de nous disputer. Par exemple, nous pouvons être plutôt dans la fuite, avec parfois un repli sur soi comme un hérisson, ou bien dans l'attaque comme un rhinocéros. Les disputes seront très différentes si les deux conjoints sont deux rhinocéros ou deux hérissons, ou bien l'un hérisson et l'autre rhinocéros. Alors attention, il est important de souligner que si le hérisson ne dit rien, ou peu de choses, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de colère, de frustration, de ressenti négatif vis-à-vis de son conjoint. Et puis en général, les femmes sont plutôt dans un flot de paroles, tandis que les hommes pourraient avoir tendance à s'enfermer dans leur caverne. Nos modèles familiaux viennent aussi nous modéliser. J'ai en mémoire un homme qui me disait « Chez nous, on se disputait, mais cela ne voulait pas dire qu'on ne s'aimait pas, bien au contraire. » Alors pour lui, le conflit en général était bien vécu, et était même un mode d'expression. Tandis que pour madame, c'était au contraire vécu comme un échec de la relation. En fait, ce qui est important, c'est de prendre conscience des différences de tempérament et des vécus face au conflit, car cela peut déjà aider à trouver une clé de compréhension réciproque.
Existe-t-il une trame de la dispute ?
En général, il y a un ou plusieurs déclencheurs, comme un état ou une humeur, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on est mal avec soi-même. Une accumulation de petites frustrations, pas forcément liées au couple, le ton de voix de notre partenaire, un souci professionnel, une accumulation de non-dits dans la relation depuis quelques heures ou quelques jours, une répétition de situation. Parfois, c'est comme si l'un des conjoints appuyait sur le bouton « on », avec une mimique, comme des yeux levés au ciel, un soupir, ou bien une phrase style « tu as encore oublié d'appeler le plombier, tu ne t'es toujours pas occupé de faire réparer la voiture, je n'ai jamais le temps de faire ce que j'aime ». Alors je vais juste me permettre de souligner ces trois petits mots « encore », « toujours », « jamais », qui viennent bien renforcer l'effet déclencheur de ce bouton « on ». De là, on va passer aux reproches, aux critiques. « Tu ne penses qu'à toi. Tu ne me respectes pas. Je ne supporte plus tes oublis. Tu n'es qu'un idiot ou une idiote, pour rester poli sur cette antenne. » Dans cette phase, il y a une forte utilisation des « tu »,« c'est toi » ou « t'es ». Bref, on accuse l'autre. Les mots peuvent être très forts et peuvent même dépasser nos pensées. Mais à la longue, ces disputes à répétition peuvent user les conjoints, abîmer la relation, mais aussi créer des blessures profondes, entraîner de l'animosité, du ressentiment, des envies de vengeance, avec parfois des actes lourds de conséquences. L'émotion qui domine la dispute, c'est la colère. En tout cas, nous voyons bien que cette escalade dans les conflits est inefficace et n'apporte rien de bon. Cela va donc être une étape à dépasser ou bien modifier la manière de nous corréler pour rendre nos conflits constructifs.
Bérénice, nous poursuivons notre chronique du CNV sur les conflits conjugaux. Nous en avons vu les causes et les modalités. Nous allons tenter maintenant de voir comment en tirer du positif.
Il est vrai que rester au stade de la dispute ne rend personne heureux et n'apporte rien de constructif pour la relation conjugale. Une des premières pistes, comme je l'ai déjà évoqué, est de se connecter à nos besoins et à ceux de notre conjoint. Les émotions que je ressens peuvent me renseigner justement sur mes besoins. Alors, il existe quatre grandes familles d'émotions, avec pour chacune des besoins associés. Quand nous sommes dans le registre de la peur, cela indique un besoin d'être rassuré, sécurisé. Pour la tristesse, c'est celui du réconfort. La colère vient nous renseigner sur nos besoins de changement, d'apaisement, de compréhension. Et la quatrième famille est celle de la joie, qui me semble n'intervient pas dans notre sujet du jour, mais en tout cas exprime un besoin de partage. Identifier nos besoins d'enfant ou d'adulte peut nous permettre de les partager avec notre conjoint sur un registre autre que l'affrontement, ou bien venir éclairer ce qui a pu se passer dans la dispute et poser un autre regard sur les échanges. Je me permets de redire que dans des disputes, notamment les plus récurrentes, il y a souvent en nous des besoins d'enfants non reconnus, voire des blessures d'enfance qui sont à prendre en considération. Prendre soin de notre enfant intérieur, accepter sa fragilité et voir aussi ce qu'il y a de beau en lui, peut-être un chemin de paix qui demande parfois un travail un peu long avec un professionnel, mais qui peut être très bénéfique. Dans les conflits conjugaux, nos besoins d'enfants, d'adultes et de couples se télescopent.
Si je vous comprends bien, Bérénice, ce n'est pas le désaccord en lui-même qui pose problème, mais plutôt la façon de l'exprimer. À la place du « tu » accusateur, vous nous invitez à parler en « je ».
En effet, parler en « je » permet de nous recentrer sur nous et nos besoins, et du coup de ne pas être dans l'accusation. Je suis en colère, je n'accepte pas cette décision, je ne suis absolument pas d'accord. C'est aussi une manière de prendre nos responsabilités et éventuellement de reconnaître nos torts. Alors, soyons réalistes, passer du « tu » au « je » demande un apprentissage, et sans doute, le « tu » peut revenir régulièrement. Utiliser le « tu » le moins souvent possible est sans doute un objectif atteignable.
Et je crois, Bérénice, à ce propos, que vous avez un moyen pratique à nous proposer pour arriver à se mettre à l'écoute de nos besoins.
Oui, Sophie. C'est une piste qui nous est proposée par la communication non-violente de Marshall Rosenberg. On la résume à l'aide de quatre lettres, O-S-B-D. O de observation. Dans un premier temps, je fais une observation la plus neutre possible, en évitant donc les toujours, jamais et encore. J'ai vu tes affaires de couture sur la table de la cuisine. J'ai vu tes outils dans le salon. Je t'ai entendu parler avec un tel. S, c'est le sentiment que la situation provoque en moi. Cela m'a agacé, déçu, fâché, embarrassé, effrayé, découragé, inquiété. B, comme besoin, que nous avons déjà évoqué. J'aurais besoin d'aide, d'échanger, de repos. utiliser l'expression « parce que » peut nous aider à exprimer nos besoins. Par exemple, nous pouvons dire « je suis contrarié parce que j'aurais aimé passer plus de temps avec toi ». « Je suis en colère quand tu me parles sur ce ton parce que je ne me sens pas respectée. » Et le « D » correspond à une demande claire, réalisable, que je peux faire à mon interlocuteur et qui n'est pas une exigence, c'est-à-dire que je laisse la possibilité à mon conjoint de me dire non. Au final, cela pourrait donner « Tu arrives avec 30 minutes de retard sans prévenir et en fait je suis contrariée quand je ne sais pas quand tu rentres car j'ai besoin de bien planifier ma fin de journée. Pourrais-tu me prévenir la prochaine fois par SMS si tu es en retard ?»
Observation, sentiment, besoin, demande, OSBD donc. Cela ne semble pas très naturel comme manière de faire.
Ce qui me semble important en écoutant cette chronique, c'est de pouvoir se poser la question de savoir si j'ai envie de changer des choses dans mes relations et de piocher des petites astuces qui vont m'aider à bouger. La prise de conscience de certains mécanismes peut m'aider à faire des petits pas pour du meilleur. Mais finalement, peut-être que notre fonctionnement me convient, que nos disputes se passent sans violence et sont un bon moyen de faire des réajustements, d'éliminer quelques rancœurs, de faire émerger des besoins personnels ou conjugaux. Certains sujets de discorde vont demander à être rediscutés, car parfois il y a des décisions à prendre, des choix à poser. Un des deux membres du couple devra renoncer à sa position, ce qui n'est pas évident. Si nous sommes moins dans l'émotion et que nous nous reconnectons à nos besoins et ceux de notre partenaire, nos différences peuvent être une chance de faire grandir notre relation. Pour certains sujets épineux, cela peut valoir le coup de se faire aider par un tiers neutre, comme un conseiller conjugal.
Et puis Bérénice, vous voudriez nous parler du pardon.
En effet, cela me semble important après des échanges vifs, des mots blessants, des insultes, des reproches, de savoir prendre le temps de se réconcilier, de recréer, réparer le lien qui a été abîmé. Cela peut demander du temps, parfois plusieurs jours, mais mieux vaut ne pas faire un matelas de nos différends qui pourrait devenir dur à la longue. Il me semble souhaitable que chacun puisse reconnaître ses torts, prendre ses responsabilités. Cela demande de la patience et une écoute réciproque. Présenter ses excuses, exprimer des regrets, demander pardon, cela exige un minimum d'humilité, mais véritablement au service de l'amour.
Merci Bérénice de ce regard sur nos conflits conjugaux, en nous rappelant qu'il est normal de se quereller quand on s'aime, et dont vous nous dites qu'ils peuvent être une vraie occasion d'enrichir et fortifier notre relation, si nous apprenons à mieux discuter ensemble de nos points de désaccord.
Merci Sophie. Au revoir et à bientôt pour une prochaine chronique du CNV.